Bonjour et bienvenue dans l'émission Ma commune est utile. Donc, je me représente Gérard Queval. Je vais animer cette émission avec à mes côtés Alain Castan, président de l'Association des maires ruraux de la Dordogne, et Brigitte Cabirol, maire de Saint-Barthélemy. Bonjour à tous, nous sommes heureux de revenir à cette émission. J'ai toujours autour de moi Alain
ouais.
Et Brigitte.
Bonjour. Donc, bonjour à tout le monde, on est toujours Covidé malheureusement.
Covidé, parle pour toi.
Donc nous allons commencer cette émission par un petit hommage à Vanik Barberian qui a été président de l'association des maires ruraux au niveau national. Alain, tu voulais dire un petit mot par rapport à Vanik ?
Oui, mais c'est pour nous, c'est une perte énorme parce que Vanik Barberian a été président pendant 13 ans, de 2008 à 2020. On savait qu'il était bien malade. Bon, aujourd'hui, malheureusement, il a disparu. Mais c'est lui qui a fait grandir l'association des maires ruraux dans toute la France et qui en a fait un réseau dynamique et majeur dans la vie des collectivités territoriales. Donc vous pensez bien qu'on est tous choqués, on l'a tous connu. Il est venu à Bergerac, à Montmazillac même, pour une assemblée générale, où il a été vraiment apprécié de nos collègues maires. Et donc on perd un ami, une personnalité nationale et vraiment attachante. Donc voilà, je voulais qu'on lui rende un petit hommage. Et c'est vrai que beaucoup de maires veulent me suivre au mois de... Puisqu'avec le Covid, il a été enterré dans sa ville d'origine d'Argilès, dans l'Indre. Et c'est vrai qu'il y aura un concert hommage, parce qu'il adorait la culture, et il y aura un concert hommage en son nom dans le mois de juillet ou août. Et donc nous serons nombreux, les maires de Dordogne, à venir autour avec moi lui rendre cet hommage. Voilà.
Brigitte, un petit mot.
Moi, ce que je retiendrai, c'est son énergie, son activisme aussi, sa bienveillance, parce qu'il était toujours bienveillant envers tout le monde, ennemi comme ami. Enfin, je serais tenté de dire ennemi entre guillemets, hein, c'est pas la guerre.
Opposant, même.
Mais des fois, même dans ses lignes, hein, quand quelqu'un n'était pas d'accord avec lui. Mais il avait un pragmatisme et ça a permis de redonner la voix à une certaine ruralité. Et maintenant, grâce à lui, on a quand même obtenu des choses qui ont permis... Il avait toute sa place auprès du gouvernement dans toutes les infrastructures de notre pays. Et je pense que c'est très important qu'on le garde en mémoire et puis qu'il soit bien représenté par ceux qui vont lui succéder, notamment M. Fournier.
Voilà. Mais en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est quand même lui qui a créé l'agenda rural. C'est quelque chose de très important. Et l'idée des cahiers de doléances après les Gilets jaunes, c'est lui. Donc rendons-lui au moins cet hommage aussi. Il était visionnaire sur l'avenir des territoires ruraux. Et c'est vrai que quelque part, c'est une perte énorme pour nous.
Parce que je disais, la bienveillance, c'est aussi les gilets jaunes et les cahiers de doléances, c'était justement parce qu'il était bienveillant et qu'il pensait qu'il y avait quelque chose qui allait mal et qu'il fallait au moins qu'on extériorise ça.
Donc effectivement, ça va nous permettre de faire le lien sur la défense des territoires ruraux. On va revenir sur la question de la poste, parce que là aussi, tu as rencontré... le ministre de la...
Le secrétaire d'État à la ruralité. Oui, donc je l'ai rencontré pour un débat de pratiquement 1h30 à 2h à Mussidan, puisqu'il venait inaugurer une maison des services publics. Et chose que, comme je vous l'ai déjà dit, ce sont des coquilles à moitié pleines et à moitié vides. Donc j'ai pas tardé à le lui rappeler. Mais surtout, sur le débat de la poste, vous savez que nous avons lancé l'idée de faire remonter les motions délibérées par les conseils municipaux pour les diminutions d'horaires dans les bureaux de poste. C'est un peu général, j'en ai reçu énormément. Toi aussi, Gérard, t'en as reçu, mais beaucoup de mairies m'ont renvoyé ces motions que j'ai immédiatement fait remonter au niveau du national. Donc nous avons eu un conseil d'administration dont je fais partie. Et c'est vrai que j'ai resoulevé le problème de la poste et certaines décisions ont été prises. Donc déjà, il y a eu ce débat sur la stratégie du groupe La Poste en constatant les risques pour le monde rural qui est lié au choix du groupe en termes de gestion du réseau et du financement du fonds de péréquation nationale. Donc c'est une première chose. Nous avons souhaité, la MRF, qu'on soit associé à toutes les futures conventions, actuellement tripartites, entre justement l'Association des maires de France, La Poste, le ministère et donc bien sûr l'Association des maires ruraux. On a proposé que la Poste, avec la MRF, puisse se réunir à fixer des feuilles de route par département. Donc ça, c'est important. Comme ça, on saura où on va, quels sont les postes les plus visés, peut-être en gagner certains. Voilà. On a fait des propositions pour modifier les règles de composition de la CDPPT. Vous savez que c'est un organisme qui départemental avec des élus qui justement débattent sur la diminution des services publics et sur la diminution des horaires. Donc on a surtout demandé de la modifier parce que les élus sont trop peu représentés dans cette commission départementale. Alors des services publics et des territoires, voilà, c'est ça, et qui est beaucoup plus de représentants des maires ruraux là où elles existent. Et bien sûr, il y en a une en Dordogne, donc un courrier sera fait au ministère dans ce sens-là. On a aussi décidé de travailler à l'idée d'un bureau du 21e siècle en lien avec les mairies, donc sur les bureaux de poste. Et on a demandé à ce que les grandes règles de la Convention soient présentées dans le 36 000 communes, notre journal départemental, national, pardon. Il va falloir remettre ces conventions. On a demandé aussi qu'il y ait une obligation de concertation. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, très forte à l'échelle des départements concernés, donc la Dordogne. Et bien sûr, on a souhaité que les maires pensent collectif au niveau local en associant aux réflexions et au dialogue avec la Poste l'ensemble des maires concernés par le bureau. Donc c'est très très important qu'il y ait un regroupement et un débat vis-à-vis de la Poste avec les maires ruraux pour dire oui ou non, mais au moins qu'il y ait au moins une concertation. Aujourd'hui, il n'existe pas cette concertation.
Donc il faut préciser pour nos auditeurs, je reviens sur la question de la motion que nous avons proposée aux différentes mairies. Ça a été envoyé à l'ensemble des mairies du département, mais chacune se sont prononcées, même s'ils n'avaient pas un bureau de poste sur leur commune, pour défendre le bureau de poste de la commune à côté, qui était mis en danger. C'est ça qu'il faut rappeler, c'est la solidarité entre les élus. On n'a pas voulu avoir... Les maires qui soient tout seuls. Brigitte, tu veux dire un mot ?
Oui, c'est le cas personnel de ma commune. Nous, ça fait plus de 10 ans que le bureau de poste a été fermé. On a une agence postale dans un restaurant, donc inutile de vous dire qu'actuellement, c'est plutôt peanuts. Donc, par contre, on a appris que notre poste de Montpont, laquelle dessert toutes les communes environnantes, allait réduire ses horaires. Et donc, la municipalité de Montpont est montée au créneau, évidemment, puisqu'ils voulaient fermer à 15h. Et puis, nous, c'est pareil. Comment on peut aller à la poste quand vous avez travaillé toute la journée et le soir, si elle est fermée de si bonne heure ? Donc, tout est, ce que tu disais tout à l'heure, Alain, tout est décidé unilatéralement, c'est-à-dire sans concertation. C'est comme ça qu'on avait fermé le poste à Saint-Barthélemy il y a quelques années. Petit à petit, on a mis moins de personnel, on a fermé pendant les vacances, on a fermé juillet, on a fermé août, puis après ils nous ont dit vous avez plus assez d'opérations, donc on ferme. C'est trop facile comme ça. Voilà.
Alain, c'est bon.
Moi, j'ai rien à rajouter. Maintenant, je vais interpeller le préfet pour voir s'il a bien reçu les directives qui sont envoyées
par la Poste.
Par la Poste, oui, par la Poste ou par la MRF.
S'il les a bien reçues.
Ou par le ministre, par le secrétaire d'État. Alors, le secrétaire d'État, quand je l'ai rencontré, je lui ai donc laissé quelques motions, je lui ai rappelé tout ça. Il m'a répondu par un courrier. Ce courrier, alors c'est ça qui m'inquiète un peu, il m'a répondu qu'il avait fait suivre au ministère concerné, c'est-à-dire à Bruno Le Maire. Donc ce n'est pas une réponse qui me satisfait. J'ai pas tardé à la faire remonter au niveau du bureau de la MRF pour qu'on lui tire les oreilles.
Oui, beaucoup de collègues qui étaient à Mucidan l'ont trouvé. On a la chance d'avoir un secrétaire de la ruralité, mais enfin on l'a trouvé bien aux ordres et ça nous dérange un peu.
Ah, mais voilà, c'est vrai que tu y étais, Brigitte, et tu vois, tu fais l'écho des autres maires qui étaient autour, parce que moi, j'ai pas pu, j'étais en direct avec lui, et c'est vrai que quelque part, si tu as ces remontées-là, mais je ne suis pas étonné, parce que je trouve qu'il privilégie avant les réponses de son gouvernement, j'ai bien dit de son gouvernement, plutôt que de défendre ce par quoi il a été mis en place, c'est-à-dire défendre la ruralité.
Exactement. Je pense qu'on serait peut-être un peu plus, même un peu plus dans le sujet avec Mme Gouraud.
Juste pour une petite information, il y a une mobilisation de la population à Saint-Léon pour défendre le bureau de poste. Alors, a priori, c'est toujours... Je voulais baisser à 12 heures. Il y avait 17 heures de présence. Je passais à 12 heures pour aller vers une agence postale. Aujourd'hui, la Poste propose 15 heures. Déjà, par rapport à leur projet, c'est un petit recul. Mais bon, les habitants continuent à se bagarrer pour avoir toujours un minima ces 17 heures et surtout l'ouverture du samedi.
Voilà.
Donc, vous voyez que si on se mobilise, on peut faire des choses. Quoi.
Ouais. On s'est mobilisé chez nous et on a fermé quand même. J'ai un peu peur, moi.
Oui, et puis bon, il y a des maires aussi qui se laissent convaincre par les agences postales. La différence, c'est que les agences postales, il y a une rémunération de la Poste de 1 200 € par mois. Mais ça ne couvre pas les frais de personnel et ça ne couvre pas surtout le fonctionnement. Oui. Donc, quelque part, c'est...
Alors là, tu parles des agences postales qui sont en mairie ou qui sont mises en place par les communes. Alors que moi, chez moi...
Je parle de celle de la mairie.
Voilà. Moi, chez moi, c'est un commerçant qui sert de dépôt ou de poste.
Pour préciser, par rapport à nos auditeurs, il faut savoir qu'une agence postale communale, ça serait dans les locaux de la mairie. Effectivement, la Poste donne une rémunération à la mairie pour payer l'employé. Je donne l'exemple sur la commune de Saint-Léon. Sur une heure de travail, de présence de la postière, la Poste considère qu'il n'y a que 16 minutes de travail. Donc, il ne rémunère que ces 16 minutes. Les trois quarts d'heure qui restent sont à la charge de la mairie.
Et voilà,
donc, on voit tout de suite les coûts. Si vous avez 4 heures d'ouverture, combien ça va coûter à la municipalité sur la mairie.
Ça veut dire qu'elle va travailler pendant 16 minutes et après, ça leur est égal, elle peut faire du tricot.
C'est nous ridicule. Rassure, la banque postale, c'est compté.
Oui.
Bon. Juste un petit point, on a encore 2-3 minutes avant la pause. On parle de l'EDF et on revient après.
Parlera tout à l'heure. Ce que je voulais dire, vite fait.
Sur les aides ménagères, peut-être. On va en parler 2 minutes. Sur les aides ménagères.
Oui, si tu veux, oui. Allez, si tu veux. Sur les aides ménagères. Alors, sur les aides ménagères, nous avons une réunion importante parce que c'était en présence du président du département, Germinal Perrault, en présence de Bruno Lamonnerie, qui est le président de l'Union des maires, et moi-même, donc, en tant que président des maires ruraux de la Dordogne. Mais il y avait aussi l'UNA 24, l'UDCCAS de la Dordogne, il y avait l'UNSA UD, il y avait la CFDT, et il y avait le syndicat Santé Sociaux. Donc, vous voyez, c'était bien représenté. Alors, nous avons fait un texte commun relatif à la revalorisation et la prise en charge des métiers de l'aide à domicile. Donc, je ne vais pas vous relire tout ce que les signataires ont rappelé, mais c'est vrai que quelque part, si on fait la finalité de ça, ces aides ménagères, d'abord, ce sont des emplois précaires. Il faut savoir que leur salaire moyen est de 900 € par mois. C'est inadmissible. C'est un travail décalé. C'est un travail précaire. Ce sont des gens qui, en plus, comme moi, je l'ai rappelé en conférence de presse, ce sont des gens qui sont plus qu'utiles pour les mairies parce que ce sont les gens qui viennent... ces aides à domicile viennent nous dire si une personne âgée est en difficulté. Donc c'est un contact indispensable pour les personnes âgées et les handicapés. Et donc nous demandons que l'État remplisse son rôle. Au lieu de faire augmenter sans arrêt la participation des mairies, il faut que l'État remplisse son rôle. Et donc ce qu'on a demandé, c'est que le gouvernement de préciser les sommes qu'il entend directement affecter à la revalorisation des salaires et des conditions de travail de ces aides à domicile. On a demandé à ce que ces sommes relèvent directement de la solidarité nationale et non de la seule solidarité des collectivités. Donc c'est ce que je disais. Et on a demandé au gouvernement de marquer de façon concrète et durable la reconnaissance de l'État à l'égard des professionnels de l'aide à domicile et de lancer une réforme de mode du financement des services afin de ne pas pénaliser les usagers plutôt que d'attribuer une dotation dont la pérennité n'est pas garantie. Voilà. Et on a appelé le gouvernement... à s'engager sur l'augmentation des moyens affectés aux collectivités locales ayant pour compétence la dépendance des personnes âgées. Vous voyez que nous finissons ce texte en disant qu'il y a péril en la demeure pour notre société, notre cohésion sociale et pour la solidarité envers nos aînés et nos handicapés. Donc voilà, c'est clair ce que j'ai dit.
Pour être plus précis, hein, pour que les auditeurs comprennent bien, c'est qu'aujourd'hui, les gens touchent une certaine somme de la part, entre autres, l'APA, par exemple.
Si demain, pas forcément.
Je donne cet exemple, pas forcément, mais il y a d'autres. Si demain, il y a une augmentation des salaires, forcément, si la somme n'est pas augmentée, il y aura, les gens, comme ils ne pourront pas payer, ils auront droit à moins d'heures.
Tout le langage de ce qu'on a demandé, toutes les exigences sont là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever des heures et en même temps ne pas payer. Tout est lié. C'est-à-dire qu'il faut que ces gens-là puissent travailler dignement et avec une rémunération qui soit totalement liée au monde du travail. C'est-à-dire à minima du SMIC, c'est-à-dire beaucoup plus, et même au-delà. Parce que c'est un métier très dur. Ce sont des gens qui, en principe, il y a une moyenne de 7 à 11 ans. Ils ne vont pas plus loin. Donc, quelque part, il faut reconnaître ça. Et il faut absolument, et en plus, avec leur véhicule. Alors, c'est pour ça que le département a proposé d'acheter 1000 véhicules pour les CCAS, de façon à donner des véhicules qui tiennent la route à ces personnes. Voilà, c'est clair. L'État doit s'engager sur les aides à domicile. Ils l'ont fait pour le Ségur. Moi, je fais partie de la commission régionale pour le Ségur. C'est quelque chose que je rappellerai parce que il a fallu se battre aussi pour que ça soit du personnel soignant. Donc, il faut absolument que ces gens-là soient reconnus.
OK. On va faire une petite pause.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est instit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés. La campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne...
Nous revenons à nos débats sur la défense des services publics. Donc en ce moment, il y a des grands mouvements sur la question du projet Hercule. On en a un petit peu abordé le mois dernier.
Hercule.
Le projet Hercule.
D'EDF.
D'EDF.
Faut oublier de rajouter. Non, mais
le projet Hercule, c'est
Hercule Poirot.
Ouais, c'est pas Hercule Poirot.
Voilà. Non, mais c'est le projet de réforme d'EDF. Voilà, alors, tu veux que j'en dise deux mots
Plus précisément, pourquoi les maires, de manière générale, ont voté des motions? Parce que je crois qu'il faut bien rappeler que le réseau appartient aux communes, quoi, parce que ça... Donc, tu peux l'expliquer
Alors, ce que je veux expliquer, surtout, c'est le projet. C'est le projet, ils veulent diviser EDF en trois parties. Alors, il y a EDF vert, EDF bleu et EDF, je ne sais plus...
Azur,
voilà, donc... Le principe, c'est d'exactement faire un copier-coller de ce qui s'est passé entre France Télécom et Orange. C'est-à-dire que toute la partie rentable est mise à la concurrence et toute la partie logistique reste dans l'escarcelle de l'État. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est qu'aujourd'hui, avec cette concurrence, le projet Hercule fera que... D'abord, on va confisquer les réseaux de distribution basse tension qui appartiennent aux communes, puisque ces réseaux basse tension et moyenne tension appartiennent aux communes, mais les syndicats des communes, c'est-à-dire les SDE, en charge par compétence collective de gérer ces réseaux basse tension et puis de les rénover, de les renforcer. Donc ça sera fini. puisque ces réseaux seront confisqués. Et derrière ça, donc, ça veut dire que dans un premier temps, la première conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que le seul service public où on a des réseaux qui sont neufs, qui sont rénovés, qui sont renforcés, c'est à la campagne. C'est dans le monde rural. Et on voit des vieux réseaux, vous prenez l'exemple de Périgueux ou de Bergerac, il y a des fils nus partout, il y a des éclairages publics qui sont en déliquescence, alors que dans le rural, tout ça a été refait grâce justement à cette équité nationale, puisque EDF est encore aujourd'hui un service public d'État. Et donc ça serait remis en question. Et vous pensez bien que le client qui va tomber en panne à Saint-Barthélemy de Bellegarde ne sera pas dépanné en même temps que l'abonné ou le client qui est à Bordeaux. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la fin de la péréquation tarifaire. La péréquation tarifaire, ça veut dire qu'aujourd'hui, toujours pareil, un habitant de Saint-Léon-sur-Lisle ou de Rouffignac de Sigoulès ne paiera plus le kilowattheure au même prix qu'un client de Libourne ou un client de Périgueux. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, bien sûr, c'est tout ce qui va toucher le nucléaire. Donc la sûreté nucléaire, déjà qu'elle est mise à mal, parce qu'au départ des centrales nucléaires, c'était quand même bien bien surveillé par l'organe qui s'appelle justement la sûreté nucléaire. Aujourd'hui, on donne de plus en plus de maintenance au privé. On s'est rendu compte de ce qui se passait, c'est-à-dire que dans le temps, quand il y avait une révision d'un groupe nucléaire, ça prenait pratiquement 3 mois. Aujourd'hui, ça prend 15 jours. Donc ça veut dire que quelque part, on ne peut pas faire ce qu'on faisait en 3 mois, en 15 jours. Ça veut dire que c'est une restriction de la sécurité. Et ça va aller de pire en pire. Voilà un petit peu le projet Hercule. Et là-dessus, la ruralité ne peut pas être d'accord. Et bien sûr, ce serait la fin des SDE, des syndicats départementaux d'électricité, qui, grâce justement au fonds, ce qu'on appelle FAS, le fonds d'amortissement des collectivités électrifiées, touche de l'argent de l'État. Je rappelle que la Dordogne touche 10,5 millions d'euros par an. Ces 10,5 millions d'euros par an, elles vont en totalité dans les investissements faits sur le réseau. Mais ces 10 millions, ils manqueraient, sachant que les SDE, particulièrement celui de la Dordogne, investit 35 millions d'euros par an sur les réseaux ruraux, puisqu'on n'a que les communes rurales. Et en même temps, Enedis, pareil, investit 35 millions d'euros par an sur le réseau de la Dordogne. Alors il est bien évident aussi, et j'ai oublié de le dire, c'est la fin d'Enedis. C'est-à-dire qu'Enedis devra être rentable. Donc ça ne sera pas sa fin, mais elle sera dans des conditions de travail qui seront complètement modifiée, puisqu'elle va se retrouver avec des concurrents comme l'est aujourd'hui Orange, avec SFR, avec Free et avec Bouygues. Donc vous vous rendez bien compte aujourd'hui, les gens se plaignent des lignes téléphoniques. Et bien demain, si le projet Hercule passe, on se plaindra aussi des lignes électriques.
Alors on se plaint des lignes téléphoniques, mais surtout des poteaux. Parce que franchement, on a tous les poteaux, je ne sais pas si vous, enfin à travers la Dordogne, les poteaux téléphoniques qui sont en
vrille.
qui sont en vrille, qui sont cassés, qui sont coupés, qui sont
penchés.
On ose à peine penser que ça pouvait être des fils électriques. Dans le même cas, comment ça va se passer? Je voulais simplement aussi rajouter que le SDE, c'est le syndicat des énergies. Il y en a peut-être qui ne connaissent pas du tout, et c'est départemental.
C'est départemental, et toutes les communes de la Dordogne rurale ont donné leurs compétences à ce syndicat des énergies.
Très
voilà.
Important.
Bon. Sur Hercule, donc, il faut se motiver. J'espère, j'ai déjà beaucoup de mairies qui me font remonter l'émotion contre ce projet. Je sais que le président du CEN, puisqu'il vient d'être élu vice-président de la FNCCR, c'est notre syndicat de tête à Paris, Fédération nationale des collectivités concédantes et des réseaux. Donc, il est en train avec le bureau national, en train de rédiger un petit peu ce qu'il faut pour être contre ce projet. Le seul problème que nous avons, c'est que c'est un projet européen. Et est-ce que le président Macron se laissera tenter? Je pense que le président Macron, je crois savoir qu'il est assez libéral, même très libéral. Donc je pense qu'il va abonder dans le sens, donc il faut absolument se battre pour, voilà, pour que ce projet ne sorte pas.
Il faut préciser que ce n'est pas un projet européen, c'est un projet de la Commission européenne dans le cadre de la libre concurrence. Ce n'est pas tout à fait
Vous savez tous que les pays européens plébiscitent la France. Nous, on est toujours le bon petit soldat. Les autres, ils tirent où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, que ce soit avec tout au niveau de l'Europe. Nous, on a toujours le doigt sur la couture du pantalon. Donc moi, ça me fait peur. Hercule, il est en France... Voilà, nous, on respecte toutes les lois, nous. On respecte tout ce qui est européen.
Exactement.
On ne sait pas se remettre en question. À un moment, il va falloir que ça change. Ou alors, on marche tout d'une... Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, quand même. Je voulais simplifier aussi. Monsieur Dussen étant le président du SDE. Parce que tu ne l'as pas dit, mais les gens qui t'écoutent...
Ah, d'accord.
Voilà,
excuse-moi.
Le président Dussen.
Il y a tellement de monde, le président
Dussen. On va passer... Bon, on reviendra peut-être le mois prochain sur Hercule pour savoir où c'est que ça en est.
Oui, on va suivre l'affaire.
Et on invitera peut-être Monsieur Dussen à ce moment-là à venir en parler.
Il viendra.
C'est bien.
Par contre... Il nous reste quelques minutes. On va parler un petit peu de la fiscalité, puisque bon, dans les mairies, on a reçu des directives du préfet sur la fiscalité qui prend en compte la taxe d'habitation en priorité.
Alors, ce qu'il y a pour les maires, je vais donner l'explication pour les maires et les élus, mais aussi pour la population, parce qu'il y a deux choses à voir. La première, c'est qu'aujourd'hui, la suppression de la taxe d'habitation fait que la compensation faite par l'État va venir de la taxe foncière sur le bâti du département. Donc, sur l'article, alors ça s'appelle l'article de 1259, pour la population, c'est pas grave, mais pour les maires, ils connaissent. Donc, c'est la fameuse fiche verte qu'on reçoit tous les ans pour les taxes. Il ne faudra pas oublier de cumuler les deux, c'est-à-dire que la taxe sur le foncier bâti, il faudra mettre le pourcentage de la commune, le pourcentage que payait la commune avec une augmentation s'ils veulent l'augmenter ou la laisser telle qu'elle était, plus rajouter celle du département qui est aujourd'hui à plus de 25%. Ça veut dire que vous allez vous retrouver sur vos feuilles d'impôt avec un foncier bâti qui sera égal pour la commune à pratiquement 30-35% de... un pourcentage, mais il faudra bien regarder qu'il n'y aura plus celle du département. Mais quelque part, c'est pas une bonne image pour la commune, parce que beaucoup de nos concitoyens vont dire « Mais attendez, vous êtes passé de 5% à 35%, ils ne vont pas comprendre. » Donc, il faudra bien leur expliquer ça, parce que c'est une opération blanche, mais elle est importante.
Deux minutes.
Deuxième point. Qui est important, c'est la compensation de cette taxe d'habitation. Et c'est là que le gouvernement est un petit coquin. C'est qu'au lieu de nous la compenser sur l'année N-1, va nous la compenser sur la
2017.
Sur la 2017. Ouais, c'est donc la 2017. Tous ceux qui avaient fait une augmentation de taxe d'habitation parce qu'ils en avaient besoin vont se retrouver pénalisés. Et je n'ai pas plus tard que ce matin, le maire Sylvie Colombelle, le maire des Farges, qui m'a appelé, qui m'a envoyé un texto en disant que l'effet de cette compensation l'ampute de 11 000 euros sur le budget de la commune. Une commune qui est pas
grande.
Qui n'a pas un gros budget, mais 11 000 euros, c'est énorme pour elle. Donc voilà, moi je voulais le dire, attention à ces nouvelles taxes, il faudra bien réfléchir. Déjà qu'on nous enlève beaucoup de choses dans les communes, mais de nous enlever encore plus, déjà qu'on nous a enlevé plus de 30% de notre dotation de l'État, de global de fonctionnement, il faut maintenant qu'ils nous en enlèvent sur les compensations des taxes, c'est anormal.
On y reviendra. Pour terminer, tous les petits, un petit mot sur Carlus, mais fait très court.
Ben, je vais faire très court, mais je veux mettre à l'honneur aujourd'hui une commune que je l'ai vue sur la presse. Ça fait plaisir. C'est la commune de Carlux. Bravo les élus de Carlux qui viennent d'adhérer à ce qu'on appelle notre outil d'information, la MRF, Panneau Pocket. Alors j'invite tous les maires à regarder cet organe de communication. Il y en a 4700 en France. Il y en a quand même une vingtaine sur la Dordogne. Carlux, c'est le dernier. Bravo à eux. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on va décider que ça sera la commune d'honneur de ce reportage.
C'est bien.
Je te remercie. Au mois prochain. Et bonne journée à tous.
Bonne continuation.
Merci. Au revoir.